Le sort de l'Empire britannique ne doit pas dépendre de va-nu-pieds. Sir Winston Churchill, en 1931, à propos de la situation en Inde.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Inde est indéniablement le joyau de la couronne britannique. La reine Victoria a été sacrée impératrice des Indes en 1876 et bon an mal an, la Grande-Bretagne parvient à maintenir son ordre dans ce vaste sous-continent qui est peuplé de 300 millions d'habitants. Au demeurant, elle ne dispose que de 15 000 soldats anglais sur place et s'appuie sur l'armée des Indes, composée en très grande partie d'autochtones. Mais le premier conflit mondial va bouleverser la donne. En effet, l'Inde est impliquée dans le conflit. Environ 800 000 Indiens sont mobilisés et vont partir se battre au Moyen-Orient et même sur le front français. D'autre part, la Grande-Bretagne va soutirer 100 millions de livres pour financer son effort de guerre et va développer également une industrie locale qui participe à l'effort de guerre britannique. C'est le cas, par exemple, de la grande firme métallurgique Tata Iron and Steel Company, qui a été créée en 1907 et qui démarre véritablement pendant la Grande Guerre. Or, il est vrai que cette production va créer un prolétariat et développer un prolétariat qui dispose de salaires misérables et qui va tenter de s'organiser pour essayer d'obtenir de meilleures conditions de travail. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît un homme qui va représenter sans doute la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il s'agit de Gandhi. Celui-ci est né en 1869 et il a été élevé dans une école anglaise. Et il va d'ailleurs boire à la culture britannique puisqu'il fait des études de droit en Angleterre même. Ayant obtenu un diplôme d'avocat, en 1893, il s'installe en Afrique du Sud. Et il se fait le champion des causes des hindous maltraités en Afrique du Sud, où se développe indéniablement un racisme qui annonce déjà l'apartheid. Végétarien passionné, il fonde en 1904 un centre de vie communautaire rural en Afrique du Sud, où le travail manuel est mis à l'honneur. Il va rentrer en Inde au moment de la Grande Guerre, et finalement, il va pratiquer une doctrine basée sur la non-violence, mais également sur la méfiance vis-à-vis d'une certaine modernité. Il redoute la machine, il abandonne d'ailleurs progressivement ses habits pour ne prendre que des habits traditionnels qu'il garde sur les reins comme une simple pièce de cotonnade tissée au foyer. Il demande d'ailleurs de condamner une bonne partie de la culture occidentale et se méfie même de l'instruction qui peut être donnée dans les écoles tenues par les Britanniques. Il croit à la vertu du jeûne, des prières, et il proscrit le vin, le café, le thé, le cacao, la viande. Donc c'est un homme d'ascèse, mais ancré dans une Inde traditionnelle et dont l'esprit politique repose sur la non-violence. Or, la Grande-Bretagne se rend bien compte, pendant la Grande Guerre, que la situation évolue. Et au sortir de la guerre, le gouvernement britannique fait voter l'India Act de décembre 1919. L'Inde aura deux chambres, élues par 3% de la population, mais les états princiers des Maharajas restent en dehors des réformes. Et évidemment, cette première réforme britannique déçoit ceux qui espéraient beaucoup plus du gouvernement de Londres. Cet India Act est jugé insuffisant. Le problème, c'est que, vis-à-vis de la Grande-Bretagne, les oppositions en Inde sont extrêmement divisées. Il y a les partisans de Gandhi, il y a des libéraux qui finalement acceptent de collaborer avec la Grande-Bretagne. Il y a un tout petit parti communiste qui estime d'ailleurs que Gandhi n'est pas assez révolutionnaire. Et il y a, et ça va beaucoup peser sur l'avenir de l'Inde, les communautés musulmanes qui se séparent du mouvement d'indépendance qui veut garder une Inde unifiée, car leur chef, le docteur Jinnah, riche avocat de Bombay, est choqué à la fois par le caractère populaire que prend le prêche de Gandhi vis-à-vis des masses, mais défend surtout l'idée d'une partition de l'Inde où il y aurait un État musulman indépendant qui serait séparé du reste de l'Inde hindouiste. Et au sein même du camp Gandhi, eh bien, il y a des désaccords. Le grand poète Rabindranath Tagore, par exemple, croit en l'utilité de la culture occidentale. Et de même que Jawaharlal Nehru, ancien étudiant de Cambridge, ne rejette pas la machine, la modernité, alors que, finalement, vous l'avez compris, Gandhi s'en méfie beaucoup. Donc, il reste disciple de Gandhi, qu'il respecte énormément, mais il représente des nouvelles tendances qui tendent cependant à diviser l'opposition vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc, ces oppositions font que finalement, le gouvernement de Londres reste maître du jeu. Nous l'avons déjà signalé, Gandhi base sa politique sur la non-violence. En 1920, par exemple, il lance contre l'Angleterre une campagne de boycott des produits britanniques qui lui vaut un séjour en prison, mais il insiste bien sur le boycott ne signifie pas violence vis-à-vis des autorités anglaises. Il estime finalement que les masses indiennes pourront, par la non-violence, obtenir des choses en paralysant tout simplement, le système colonial britannique en Inde. Cette pratique est effectivement porteuse de fruits. Et la Grande-Bretagne va décider, en 1930, d'organiser une grande table ronde à Londres, initiée par le vice-roi Lord Irvine, qui va assister à une conférence dans la capitale britannique pour discuter sur l'avenir de l'Inde, sur indépendance ou plutôt autonomie, car la Grande-Bretagne, en ce début des années 30, n'est pas encore prête à accepter de lâcher l'empire des Indes. Le gouvernement britannique propose donc des réformes. Il octroie en 1935 une nouvelle constitution qui crée dans les provinces indiennes des assemblées législatives élues avec des gouvernements locaux. Un parlement fédéral formé de deux chambres discutera des questions générales. Et le corps électoral est plus large que ce qui était prévu par l'India Act de 1919, puisque à peu près 14% au lieu de 3 de la population pourra voter. Mais à Londres même, il y a, en particulier au sein du parti Tory, du parti conservateur, des opposants à toute politique libérale vis-à-vis de l'Inde. C'est le cas de Sir Winston Churchill, qui estime que si on commence à lâcher sur l'Inde, eh bien tout le reste de l'Empire pourra progressivement se défaire. À la fin des années 30, eh bien, il y a un temps de pause, tout simplement parce que, avec la Seconde Guerre mondiale et le danger de l'impérialisme japonais, Gandhi estime que finalement, il vaut mieux mettre en sourdine les revendications parce qu'il redoute plus l'impérialisme anglais que finalement le maintien de la présence britannique. Ce qui fait que, à la différence d'autres leaders nationalistes, comme par exemple Chandra Bose, qui a accepté de collaborer avec les Japonais, Gandhi, eh bien, estime qu'il faut parvenir à la fin de la guerre pour reprendre l'activité vis-à-vis de l'indépendance. En 1945, donc, après la capitulation du Japon, eh bien, Gandhi reprend son activité pour obtenir l'indépendance. Il a deux chances. La première, c'est que en Inde même, eh bien, son message reçoit une écoute attentive de la part du nouveau vice-roi, Lord Mountbatten, qui a été un des grands responsables des armées britanniques en Asie pendant le Second Conflit mondial, qui est un oncle de la future reine Elisabeth II, et qui a l'esprit suffisamment libéral pour accepter de discuter avec Gandhi et Nehru. D'autre part, l'autre chance de Gandhi, c'est que, en juillet 1945, la majorité parlementaire change à Londres, le Parti travailliste ayant remporté les élections. Mais par contre, Gandhi va se heurter à un problème majeur qui va finalement provoquer sa mort. C'est qu'il a toujours défendu l'idée d'une indépendance, d'une Inde unifiée. Il ne peut pas donc accepter l'idée d'un État du Pakistan qui regrouperait les musulmans, à la différence de ce que veut Jinnah, le chef des musulmans en Inde. Et évidemment, l'indépendance de l'Inde se fera dans la violence entre la communauté hindoue et la communauté musulmane. Et d'ailleurs, si Gandhi est tué en janvier 1948, c'est qu'il paye aux yeux d'un ultranationaliste indien le fait qu'il ait toujours défendu l'idée d'un dialogue avec la communauté musulmane.